Bonjour Sandra. Dans ce lieu, ce jour, il y a un produit qui va transformer la technologie pour les 10 ans à venir. Qui a dit cette phrase? Tim Cook, le patron d'Apple. Vous étiez pas loin. En 2017, le 14 septembre, Tim Cook a présenté dans un show qui a été retransmis mondialement le nouvel iPhone 10X qui est une célébration des 10 ans de la création de l'iPhone. Premier iPhone en 2007. C'est le premier smartphone, premier téléphone avec un écran tactile et qui est devenu maintenant quelque chose de totalement courant et habituel. Et en 2017, Tim Cook a promis une nouvelle révolution avec l'iPhone 10. Ce que beaucoup de gens ont entendu, c'est que cet iPhone 10, la révolution, c'est que c'est le premier smartphone qui dépasse 1 000 $ ou 1 000 €. Je n'en dirai pas plus pour mettre personne mal à l'aise. Aimerais-tu vivre... Est-ce que c'est possible d'avoir mon diaporama, s'il vous plaît? Aimerais-tu vivre cette expérience? Une expérience qui transforme ta vie. Alors, pas l'expérience d'une transformation de vie par un nouveau smartphone ou par une nouvelle voiture, mais une vraie expérience. Une expérience qui fait qu'il y a un avant et un après. Il y a des personnes qui ont vécu ça dans la Bible. La plus célèbre d'entre elles s'appelle Saul de Tarse. Après avoir entendu une voix venue du ciel, Saul de Tarse a changé de nom, il est devenu Paul, et un des plus grands apôtres que l'on peut trouver dans les Écritures. En effet, entendre la voix de Dieu s'adresser directement à soi peut être une expérience qui peut transformer notre vie. Imagine, tu es là, en train de te promener, de faire ce que tu as fait dans ta journée, et bim, il y a une voix qui s'adresse à toi. Elle vient pas de droite, elle vient pas de gauche, elle semble venir du ciel. C'est Dieu qui te parle en personne. À toi. En t'appelant par ton nom. Je ne vais pas demander qui a déjà vécu ça dans cette salle, mais si je pouvais vivre cela, ce serait certainement un événement qui changerait complètement ma vie pour le restant de mes jours. Est-ce que tu aimerais vivre une expérience qui transforme ta vie, une expérience où il y a un avant, un après, que Dieu te parle personnellement, entendre sa voix directement, sans aucun intermédiaire, sans... et que ton être soit transformé. Ça fait envie. Mais, de quoi est-ce que Dieu te parlerait? Vous savez, c'est un petit peu comme rêver de gagner au loto. Je rêve de gagner 17 millions d'euros. Ah, oh, ce serait tellement plus simple dans ma vie, ce serait tellement mieux. Puis à l'étape d'après, tu dis, bon, c'est 17 millions d'euros, j'en fais quoi? Bon, allez, vous êtes là, je donne 10 000 euros à chacun. Mais après, il me reste encore... beaucoup, beaucoup de millions à utiliser et beaucoup, beaucoup de problèmes à régler. Mieux vaut vivre en paix qu'avec un coffre-fort tout plein, comme on lit dans les proverbes. Si Dieu te parlait directement, si tu entendais sa voix, de quoi te parlerait-il? Qu'est-ce que Dieu te dirait? En quoi ce qu'il te dirait changerait ta vie? Je vous propose de voir 4 personnes qui ont eu l'occasion d'entendre directement la voix de Dieu et qui ont vu leur vie transformée. Et je vous propose de voir ce que Dieu leur a dit et en quoi cela a transformé leur vie. On va donc parler ensemble de Adam et Ève, on va parler d'Élie et on va parler de Pierre. Et je vous propose de voir comment la voix de Dieu démasque la honte cachée, Je vous propose de voir comment la voix de Dieu renouvelle les forces épuisées. Et je vous propose de voir comment la voix de Dieu rassure dans le danger. Et on va commencer par l'exemple de Adam et Ève. Genèse 3, versets 6 à 13. Et on va lire le texte ensemble. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit, j'en ai mangé, etc. » Le contexte de ce passage, on est tout au début de la Bible. Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, on assiste à la création d'un jardin merveilleux où l'homme et la femme peuvent s'épanouir. Et puis Genèse 3, chapitre 3, c'est la catastrophe. L'homme et la femme désobéissent au seul commandement que Dieu leur avait donné. Ils mangent du fruit défendu. Et voilà que tout d'un coup, leur univers s'effondre. Il y a plusieurs choses qui montrent que leur univers s'effondre. Tout d'abord, vous avez vu cette insistance dans le texte, il est dit qu'ils étaient nus. Genèse 2, 25, on lit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Il n'y avait pas de question de pudeur ou d'intimité, la question ne se posait pas, ils étaient nus, ils vivaient très bien comme ça. Cela ne fait pas référence seulement à l'intimité sexuelle, mais certainement qu'il y a aussi une référence à une nudité qui était le symbole de l'innocence de leur cœur, de la transparence de leurs émotions, de leur être. Ils n'avaient absolument rien à cacher et ils pouvaient être complètement vulnérables. Autrement dit, à partir du moment où Adam et Ève ont pris du fruit défendu et qu'ils ont réalisé que leur nudité posait problème, ils ont voulu immédiatement s'habiller, se masquer et cacher leur nudité. Quelle différence entre leur innocence précédente et l'apparition d'une nouvelle émotion qui n'existait pas auparavant, qui est la honte. La honte de ce qu'ils étaient et aussi la culpabilité de ce qu'ils avaient fait. En effet, on voit qu'ils se cachent. Ils se cachent loin de l'Éternel. Ils se mettent derrière un arbre en disant « C'est bon, Dieu ne peut pas me voir ». Vous avez déjà vu cette image peut-être, qui a tourné pas mal. C'est en fait un père qui rentre chez lui, qui est chez lui, et puis il n'entend plus rien au salon. Bon, il se dit, enfant en bas âge, plus de bruit, il y a un problème. Et voilà qu'il arrive au salon, et voilà ce qu'il voit. Ses deux fils qui ont décidé de se faire plaisir, de se transformer en artiste, et qui ont repeint totalement le salon. Et là, la vidéo est assez amusante, c'est qu'en fait, on entend le père qui est en train de filmer ses enfants, qui sont barbouillés jusque-là, puis le plus grand regarde son papa et dit « Mais qu'est-ce qui est drôle, papa ?» Et le papa, il est mort de rire, mais il dit « Non, mais c'est pas drôle, et vous êtes vraiment dans, vous allez avoir des problèmes. » Évidemment, la situation, c'était tellement dramatique qu'en fait, le père a préféré en rire plutôt qu'en pleurer. Bon, à la limite, ce sont des petits enfants. Ils n'avaient pas conscience de la gravité de ce qu'ils faisaient et de la catastrophe que les parents allaient devoir réparer derrière. Adam et Ève, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Et leur désobéissance, elle est sérieuse. Comment aurais-tu réagi si tu vois des enfants comme ça qui ont pourri ton salon, qui en ont mis plein le canapé, qui en plus sont... Bon, la peau, ça se nettoie. Comment est-ce que tu réagis? Il y a plusieurs manières de réagir. Alors, soit tu rigoles comme celui qui a, comme le papa qui est là, soit tu deviens aussi rouge qu'eux. Voilà. Soit, tu peux aussi ouvrir une ardoise, compte en banque. Voilà ce que vous me devez, puis à 18 ans, il faudra commencer à me rembourser. Ce qui est assez surprenant dans ce texte de Genèse, c'est que Dieu, qui sait tout, qui sait très bien ce que Adam et Ève ont fait, qui sait qu'ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, Dieu s'adresse à Adam et Ève en disant « Où es-tu ? Où es-tu ? » Dieu sait très bien où ils sont. Dieu sait très bien ce qu'ils ont fait. « Où es-tu ? » On voit ici une caractéristique de cette voix de Dieu. C'est une voix qui parcourt le jardin, qui recherche Adam et Ève, qui les appelle et qui les questionne. Pas juste pour leur demander « Où es-tu ? Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Est-ce que tout va bien ?» Non, mais pour aussi les confronter. « Où es-tu ? » Évidemment, la question est une question de confrontation parce qu'Adam et Ève se cachent et ils ne veulent pas que Dieu les trouve parce qu'ils ont honte. Il se trouve que cette voie qui parcourt le jardin, il est précisé qu'elle parcourt le jardin vers le soir. Et je me suis dit que c'est peut-être la même chose pour moi. Après ma journée, toutes les activités que j'ai pu faire, lorsqu'enfin j'arrive dans ma chambre et que je peux me poser sur mon lit et que tout se calme, est-ce que j'entends cette question que Dieu me pose ? Où es-tu ? Est-ce que Dieu me dit simplement « Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Est-ce que tout va bien pour toi ?» Dieu va plus loin que ça. Il me dit « Où es-tu ? » Dieu me pose la question de savoir où est mon cœur. Est-ce que c'est une journée où j'ai passé mon temps à faire des choix qui ont plu à Dieu ? Ou est-ce que c'est une journée où j'ai passé mon temps à faire des choix qui ont déplu à Dieu ? Est-ce que je me couche avec... de la honte et de la culpabilité sur le cœur parce que je sais que j'ai fait des choses qui ont déplu à Dieu. Est-ce que j'ai des choses à cacher à Dieu lorsque je suis sur le point de m'endormir ? Or, on sait bien qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Dans Hébreux 4, 13, il est écrit qu'aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Comment gérer la culpabilité et la honte ? J'avais entre 8 et 10 ans et mes parents, un dimanche, m'emmènent dans un marché de potiers. Donc c'était un petit village de la Drôme, c'est très joli, c'était pas très grand, du coup je jouais dans les rues du village, mes parents visitaient le marché de potiers, tout allait bien, etc. Et puis à un moment donné, je me fais courser par un autre enfant avec qui on jouait. Pour lui échapper, je passe sous la table d'une exposition de poterie. Et bien sûr, je me relève, je me cogne contre la table. Puis ces poteries étaient mal posées sur la table, elles tombent. Et du coup, le souvenir que j'ai, c'est que mes parents m'ont retrouvé dans un jardin d'une maison sur un arbre. On a un peu caché en attendant l'orage. Et la fin de l'histoire, c'est que mes parents n'ont pas été trop sévères avec moi, heureusement, même s'ils m'ont montré leur mécontentement. Et puis ils ont payé la poterie qui était cassée. Et puis voilà, l'affaire a été réglée. La culpabilité, c'est à la fois un sentiment qui est normal, mais c'est aussi un sentiment qui peut être anormal. La culpabilité, c'est normal parce que, en tant qu'être humain, j'ai tellement de choses à cacher à Dieu, j'ai tellement de choses que j'aimerais pas que mon épouse sache toutes les pensées que je peux avoir dans la tête, J'aimerais pas que mes meilleurs amis savent tout ce que je pense d'eux. J'aimerais pas que mes collègues savent tout ce que je peux critiquer chez eux. J'aimerais pas que mes motivations soient criées sur la place publique. Et j'aimerais bien que les choses dont j'ai vraiment honte et que j'ai faites dans ma vie soient connues du minimum de personnes possible. Même une personne qui est tellement enfoncée dans le péché, et comme on lit dans 1 Timothée 4:12, une personne dont la conscience est marquée au fer rouge, elle ne se vante pas de tous les péchés dans tous les domaines qu'elle peut faire. La honte est un sentiment qui fait partie de notre humanité. La culpabilité est une émotion qui fait partie de notre humanité. Cependant, ce n'est pas non plus quelque chose de totalement normal. Si la culpabilité, si la honte, c'est le symptôme d'un problème, ce n'est pas un état normal pour deux raisons. John Piper, dans un de ses livres, explique que si quelqu'un se concentre uniquement sur le péché, il s'approche du précipice du désespoir. Culpabiliser, c'est une manière de ressasser, de penser tout le temps à ce que j'ai fait de mal, à ce que j'ai pu faire qui déplaît à Dieu, à ce que j'ai pu rater, et finalement ça peut me conduire au désespoir. Mais ça peut aussi être l'expression d'un manque de confiance dans ce que Christ a fait. Parce que qu'est-ce que Christ a fait à la croix ? Il est mort pour que mes péchés soient pardonnés. Et il est mort pour me libérer de la culpabilité et de la honte. Ce que Adam et Ève ont découvert en désobéissant une première fois à Dieu, en passant de l'innocence à la culpabilité, est en fait une conséquence, mais qui n'est pas un état totalement normal. Jonathan Edwards, qui est un prédicateur américain du XVIIIe siècle, explique que pour lui, la culpabilité était un moyen de venir à Christ pour recevoir de lui le salut, en étant pauvre en esprit, vidé de moi-même et en l'exaltant lui seul. Autrement dit, la culpabilité a cette utilité dans notre vie de nous rappeler que on ne mérite rien, que l'amour de Dieu ne nous est pas, nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais que pourtant, il nous est donné gratuitement, parce que Christ a pris notre culpabilité sur lui. Alors qu'est-ce que tu fais avec ta culpabilité ? Si chaque jour tu te bats avec les choses que tu fais, que tu regrettes, mais qui ne plaisent pas à Dieu, et que tu n'arrives pas à avoir l'esprit tranquille et l'esprit libre, et que ça te pèse sur le cœur, qu'est-ce que tu fais avec cela ? Dans 1 Jean 1:7, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste » pour nous les pardonner. Lorsque tu as confessé ton péché, si tu as demandé pardon à Dieu pour telle chose qui te semble contraire à ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait ? Il te pardonne. Combien de fois tu dois lui demander pardon pour ce que tu as fait ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Une fois ? À partir du moment où tu as confessé ton péché, où tu as demandé pardon, si ta culpabilité, si le sentiment de culpabilité reste en toi, c'est que tu crois un mensonge. Dieu t'a pardonné. Tu n'as plus à écouter ce sentiment de culpabilité, mais tu peux écouter Christ qui est mort à ta place et qui a pris sur lui ta culpabilité. Parce que cet exercice-là, c'est simplement manier l'épée de l'esprit. 1 Jean 1:7, tu peux l'apprendre par cœur et chaque fois où tu as cette sentiment de culpabilité en toi, tu le récites, tu peux le dire à haute voix et tu verras que tu vas découvrir une vie beaucoup plus libre. On est d'accord ? Lorsque j'ai eu ce petit incident sur le marché des potiers, il y a eu une conséquence double. Mes parents ont dû payer le prix de la poterie et puis encore aujourd'hui, je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait, même si j'ai conscience que vous allez garder ça pour vous. Il y a une conséquence terrible pour Adam et Ève, c'est que non seulement ils connaissent leur honte et la culpabilité, mais désormais ils sont chassés du jardin d'Éden et ils ont toutes sortes de difficultés qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a plus de mention de voix qui parle à Adam et Ève. Ils sont désormais en dehors du jardin, en dehors de cet univers originel où la voix de Dieu parcourait le jardin. La voix de Dieu se fait rare, et en fait, lorsqu'on parcourt les Écritures, il n'y a que quelques passages où l'on voit directement Dieu parler à des hommes. L'un de ces autres passages, c'est celui qui nous parle de Élie. Alors, j'aimerais lire avec vous ce passage sur Élie, où l'on apprend que la voix de Dieu renouvelle les forces épuisées. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Dans le contexte, Élie vient d'avoir une battle avec des prophètes d'un dieu païen, et il a complètement humilié ses prophètes, et même à la fin, il les a tous tués, parce que ils faisaient n'importe quoi, et ils voulaient honorer Dieu. Et Élie espérait que le peuple se joigne à lui et revienne à Dieu, mais la reine qui est au pouvoir n'est pas tout à fait de cet avis-là. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il y a un détail qui m'a frappé dans ce passage. Où est Élie ? Élie est dans une grotte, tout au fond d'une grotte. Pourquoi est-ce qu'il est au fond de cette grotte ? Il est découragé, il est épuisé, physiquement et moralement, à tel point qu'il veut mourir. Alors parfois, certains commentateurs disent qu'Élie avait une phase de dépression. C'est fort probable. On a l'impression aussi qu'il s'apitoie sur son sort. Juste 40 jours plus tôt, il a eu droit à un buffet spécial apporté par des anges, avec une nourriture divine qui lui a fait beaucoup de bien. Mais 40 jours après, bim, c'est de nouveau la dépression. Élie est dans une grotte. Et tout au fond de cette grotte, où il s'apitoie sur son sort parce que le peuple n'entend pas la mission que Dieu lui a donnée, parce que le peuple ne veut pas revenir à Dieu, parce que le roi et la reine du pays font n'importe quoi, tout au fond de cette grotte, une voix se fait entendre. « Que fais-tu ici, Élie ?» En juillet 2018, en Thaïlande, a eu un événement dont vous avez entendu parler. 12 enfants, plus leur entraîneur de football, a été pris au piège dans une grotte souterraine. Ils étaient allés faire un peu de spéléo en mode amateur, improvisé, parce que c'était facile d'accès, mais c'était la période de la mousson. Le niveau des eaux dans la grotte a monté et ils se sont retrouvés prisonniers dans une caverne à l'intérieur de la grotte. Pour pouvoir les sortir de cette grotte, il a fallu plus de 1200 secouristes, et notamment des plongeurs qui sont allés leur apporter de l'oxygène, de la nourriture, parce qu'ils sont restés plusieurs jours sans aucun contact avec l'extérieur. Il y a même un des sauveteurs qui a perdu la vie parce qu'il devait apporter de l'oxygène et puis le trajet était tellement long qu'à un moment donné, il n'avait plus d'oxygène et il s'est noyé. Ce que Dieu fait ici avec Élie, c'est la même chose. Il déploie des moyens extraordinaires, sans limite, pour aller toucher le cœur d'Élie tout au fond de sa grotte. Vous savez, quand je ne vais pas bien, j'aime bien me répéter que c'est bon, chaque jour je suis plus près de la sortie du tunnel. C'est une manière d'être optimiste, de positiver, et puis de s'encourager à dire « Allez, tiens bon, ça va aller mieux demain. » Mais il y a une fois dans ma vie où j'étais tellement découragé que j'avais même plus envie de faire l'effort d'avoir des pensées positives. J'étais tellement découragé qu'aucune parole d'optimisme de la part des personnes que je connaissais ne me faisait du bien. Aucun conseil ne m'intéressait et aucune remarque ne pouvait m'aider à avoir envie de regarder vers la sortie du tunnel. La seule personne qui a réussi à me faire sortir de cet état de découragement, c'est Dieu lui-même. Dieu a su comment, au fond de ma grotte, m'adresser la parole et me dire « Que fais-tu ici, Colin ?» Et je me souviens de ce matin-là où je me suis réveillé et j'ai dit « Maintenant, c'est terminé. Je vais commencer ma journée en ouvrant les livres des Proverbes. » Et j'ai commencé à lire un chapitre de Proverbes chaque matin pendant un mois. Et chaque jour, mon moral est remonté grâce à la présence de Dieu et ce qu'il m'a dit à travers le livre des Proverbes. Est-ce que tu es au fond d'une grotte, comme Élie, espérant la mort? Ou pour le dire autrement, dans quelle grotte es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la grotte du découragement, de l'abattement, de l'inquiétude ou de l'angoisse? Est-ce que ton futur est tellement incertain ou pas clair? Est-ce que tu ne sais plus ce que la vie attend de toi? Est-ce que ton sort te paraît tellement injuste? Et toutes les raisons sont valables pour considérer que ta situation est difficile et qu'il y a tellement de personnes qui te rendent la vie compliquée. Est-ce que personne ne te comprend ni ne peut te comprendre? Je ne peux pas venir t'aider. Mais il y a cette voix, ce murmure doux et léger, qui peut venir jusqu'au fond de ta grotte et qui peut te parler. Que fais-tu ici? Et c'est répété deux fois dans ce texte, « Que fais-tu ici ?» Et vous savez qu'est-ce que Dieu ajoute après le dialogue qu'il a avec Élie ?« Que fais-tu ici, Élie ? Vas-y, poursuis ton chemin. » Élie se lève et il retourne au combat. C'est extraordinaire d'avoir une voix de Dieu qui peut toucher jusqu'au plus profond de notre cœur. Cette voix, elle est capable, enfin, de nous rassurer dans le danger. En effet, si l'on vient maintenant dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, on découvre qu'une voix est aussi descendue du ciel. Cette voix, Pierre nous en parle. Lorsqu'il dit « Oui, il a reçu de Dieu le Père, donc Christ a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons entendue, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention. Cette expression celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Elle est répétée deux fois dans le ministère de Jésus. Au début, dans Matthieu 3, cette voix descend du ciel pour expliquer qui est Jésus. Et puis, on le voit aussi pendant la transfiguration dans Matthieu 17. Et puis, il y a deux autres évangiles qu'il cite aussi, et Pierre qui le rappelle, puisque Pierre était présent lors de la transfiguration. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » La voix de Dieu est ici venue pour attester que Christ était bien le Fils de Dieu, celui qui avait un rôle spécifique à mener, une action spécifique à mener. Et c'était quoi l'action de Christ ? Christ, il est allé à la croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, il a été crucifié, deux clous dans les mains, deux clous dans les pieds, jusqu'au moment où il a rendu l'esprit. Et après avoir dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelle a été la réponse de Dieu ? Pas de réponse. Christ a accepté que il n'y ait plus de son, que la communication entre Dieu et lui soit coupée, entre le Père et lui soit coupée. Plus de voix, silence total. Vous savez, un peu comme ces films qui représentent les spationautes qui sont dans l'espace, et lorsqu'ils sortent de la fusée, c'est le silence total. C'est ce que Christ a vécu. Plus de son, plus de communication avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a vécu ça ? Christ a accepté qu'il n'y ait plus de son, de ne plus entendre la voix de Dieu pour que nous puissions avoir du son et entendre la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu nous le devait, mais bien parce que il fallait que quelqu'un soit privé de relation avec Dieu, soit privé d'entendre la voix de Dieu pour que nous puissions entendre à nouveau la voix de Dieu. Quelqu'un devait payer le prix et ne plus pouvoir entendre la voix de Dieu pour que nous puissions être capables d'entendre la voix de Dieu. Et la conséquence, elle est extraordinaire. Et on le voit dans Jean 10. Et je termine avec ce passage. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Trois caractéristiques qui sont désormais la prérogative des brebis du bon berger, des personnes qui appartiennent à Christ, le bon berger. Ces brebis, elles connaissent la voix du berger, et donc elles peuvent le suivre. Lorsque j'étais adolescent, j'ai eu l'occasion de faire un petit stage de 3 jours avec un berger qui était un ami de mes parents. Et à un moment donné, une des choses, c'est qu'il fallait déplacer le troupeau de moutons d'un enclos vers un autre enclos. Et du coup, le berger était là, et puis il m'a dit, tu te places là au milieu, et puis quand les brebis arrivent, tu cries pour qu'elles aient peur et qu'elles aillent bien dans l'enclos. Donc moi, je me suis mis là, il m'a dit, etc., les brebis arrivent, et j'ai fait, oh, stop! Et puis là, les brebis, elles sont parties n'importe où. C'était la catastrophe. Et du coup, sur le champ, le berger, lui, il a dit 2-3 mots, les brebis, elles se sont tournées vers lui, il y a les chiens qui ont couru autour, et hop, tout est rentré dans l'ordre en 2 secondes. On ne s'improvise pas berger en 3 jours. Pour dire que c'est vraiment vrai, les brebis, elles reconnaissent la voix de leur berger. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce berger, il les connaît par leur nom. Lorsque Dieu te pose la question « Où es-tu ?» Lorsque Dieu te pose la question « Que fais-tu ici ?» Il ajoute ton nom derrière. Il connaît tes circonstances. Il sait qui tu es personnellement. Et troisième caractéristique, c'est que ces brebis, elles n'entendent pas seulement la voix du berger, mais il y a aussi d'autres voix. Notamment une voix qui dit « Regarde ce que tu as fait, c'est vraiment catastrophique, Dieu ne t'aimera plus, Dieu ne peut plus rien faire avec toi, tu es coupable et ta vie est terminée. À quoi ça sert d'essayer d'être chrétien ?» Mais les brebis savent distinguer plusieurs voix. Et cette voix de la culpabilité, elle vient pas du bon berger. Et tu as besoin de citer les paroles du bon berger pour rester derrière lui et le suivre et ne pas te retrouver dans les difficultés. Adam et Ève, ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix de ne plus écouter la voix de Dieu. Ils ont fait le choix de couper le son et d'aller écouter quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Mais Christ nous propose de faire le chemin inverse pour que nous puissions écouter la voix de Dieu. Dans ce lieu, en ce jour, j'aimerais vous présenter un produit qui va transformer les 10 ans de technologie à venir. Est-ce que vous aimeriez écouter la voix de quelqu'un qui peut transformer votre vie, pas pour les 10 ans à venir, mais pour l'éternité?
Je ne sais pas vous, mais moi oui. Et je pense que tout le monde est comme moi. Merci Colin. Et je vais terminer par une prière. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole. Merci Père, parce que c'est elle que nous voulons entendre, Seigneur, dans nos cœurs. Et qu'elle puisse jaillir comme un fleuve, Seigneur. Oui, comme un torrent, Père. Merci Père pour cet amour. Merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Et c'est à toi que nous voulons nous remettre. Oui, que ta grâce puisse nous accompagner encore pour cette journée. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et de nous accompagner encore cette semaine, et que nous puissions entendre ta parole chaque jour, Seigneur. Aide-nous à faire ce calme en nous, Seigneur, qui vient de l'extérieur, et que nous puissions vraiment nous centrer sur ta parole. Merci, Père, parce que tu nous permets de nous offrir ta parole, et c'est par ta parole que tu te révèles à chacun d'entre nous. Béni soit notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.